Les grands classiques du cinéma sur La Rage. Les grands classiques du cinéma sur La Rage. Salut Alain.
Salut Laurent.
Alors aujourd'hui, on va parler de quoi comme type de film, Alain ?
Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des films catastrophes, un genre très prisé à Hollywood, qui revient régulièrement. C'est un thème qui revient à la mode régulièrement. Et aujourd'hui, pour en parler, on va parler de celui qui a marqué son époque et aussi les films à suivre. C'est le fameux La Tour Infernale avec une pléiade d'acteurs internationaux.
Dont on va parler juste après. Donc La Tour Infernale qui est sortie le 5 mars 1975. Donc voici le synopsis. À San Francisco, le plus grand gratte-ciel du monde va être inauguré. Son architecte, Douglas Roberts, voit cette soirée tourner au drame lorsqu'un court-circuit provoque un incendie et bloque les convives au 135e étage du bâtiment. C'est Michael O'Hallahan, le capitaine des pompiers de la ville, qui est chargé de commander l'opération de sauvetage. Donc ce film a été réalisé par deux personnes, c'est ça ?
Alors deux réalisateurs. Le réalisateur principal, c'est John Guillermin, à qui on doit entre autres King Kong 1 et King Kong 2 Alive, Mort sur le Nil, donc plutôt un polar, China, la reine de la jungle, Tarzan aux Indes, et La plus grande aventure de Tarzan, Le pont de Remagen, qui est plutôt un film de guerre, et Shaft et les trafiquants d'or, avec Richard Roundtree, qui est plutôt un film ce qu'on appelait la Blaxploitation. Donc c'est quelqu'un, Guillermin, qui part plutôt dans l'aventure, dans l'exotique, et justement pour s'associer à lui pour tout ce qui est les effets techniques, et il a pris Irving Allen. Et Irving Allen, c'est vraiment un spécialiste, lui, du film catastrophe. On l'a vu dans Le sous-marin de l'Apocalypse, L'aventure de Poséidon, Le dernier secret du Poséidon, mais aussi dans l'aventure, c'est peut-être ça aussi qui les rassemble, puisqu'on a pu le voir dans Le monde perdu, 5 semaines en ballon, d'après Jules Verne, et aussi la série TV qui l'a un petit peu lancé, qui est Voyage au fond des mers. Donc c'était des aventures justement d'un sous-marin à travers le monde. Et donc c'est deux personnes qui sont complétées vraiment pour donner... toutes les scènes bien techniques ont été plus supervisées par Irving Allen.
Ok. Les acteurs, tu peux nous en dire deux mots?
Alors les acteurs, alors là on a vraiment ce qu'ils faisaient de mieux à l'époque. C'était d'ailleurs la volonté du réalisateur et puis des studios de faire vraiment un film à grand spectacle avec des gens connus. Le plus connu, enfin les plus connus, parce que ça va être dur, sinon justement on en parlera dans les anecdotes tout à l'heure. Il y a Steve McQueen. Steve McQueen, c'est Les Sept Mercenaires, La Canonnière du Yangtze, Papillon, Bulit, La Grande Évasion et j'en passe. Donc quelqu'un avec un charisme, même encore, c'est devenu une légende d'Hollywood, les gens parlent encore. Et l'autre très grande vedette, c'était Paul Newman. Pareil, même âge à peu près, même génération. Donc, Paul Newman, c'est L'Arnaque, Luc la main froide, La couleur de l'argent, Butch Cassidy le Kid, Exodus, pas la dernière version, mais le plus ancien. On retrouvait aussi une actrice féminine très à la mode, c'était Faye Dunaway, qu'on avait pu voir entre autres dans Chinatown, Bonnie and Clyde, Little Big Man et Barfly plus récemment. Aussi Richard Chamberlain, ce qu'on a pu voir dans Les Trois Mousquetaires, mais dans les Alan Quatermain et dans la fameuse série Les Oiseaux se cachent pour mourir, un roman à l'eau de rose qui avait rassemblé du monde à la télé. Et puis à côté, il y a des stars internationales comme Fred Astaire, le danseur, O.J. Simpson, qui fera parler de lui plus tard, l'ancien champion de football américain, devenu acteur, entre autres, dans le fameux Norbert, dans la série Y a-t-il un pilote pour sauver la reine, et qui a aussi une petite carrière assez sympathique au cinéma, avec Capricorn Horn, le pont de Cassandra, déjà des films un petit peu d'horreur. Et on retrouve aussi Robert Wagner, Robert Vaughan et William Holden, lui un vieux de la vieille qu'on peut voir dans le pont de la rivière Kwai, La Horde Sauvage, Talag 17, Sabrina, Network. Enfin, des gens avec déjà un bon palmarès, donc ce qui faisait de ce film quelque chose d'extraordinaire pour l'époque, puisque on n'avait pas encore, il faut le dire, les effets spéciaux qu'on a maintenant numériques, mais Donc c'était vraiment le début de ce qu'on appelait pas les gratte-ciel, puisque ça avait déjà été créé au temps de l'Empire State Building et compagnie. Mais c'était un peu le World Trade Center, ces choses-là commençaient, c'était les nouvelles tours, c'était à nouveau à la mode de construire très haut.
Ben, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale en écoutant la BO de John Williams. Bing. We'll be right back. jusqu'à la fin. Je laisse savourer cette BO de John Williams. On reconnaît bien sa patte, est-ce qu'on disait hors antenne, ouais.
Oui, oui, c'est tout à fait lui. On retrouve entre autres dans E.T. par exemple. Mais c'est toujours bien enlevé avec des morceaux. On voit que ça bouge.
Ouais, E.T. et tu me disais aussi Star Wars.
Star Wars en partie, ouais. Et c'est quelqu'un qui sait allier le classique, mais avec une dynamique derrière, je trouve. On est tout de suite dans l'ambiance. On parlait tout à l'heure, en général, sur chaque bande originale de film, ça amène quelque chose. C'est pour ça que maintenant, c'est toujours très important, et même depuis plusieurs années, d'avoir une musique. On ne conçoit pas un bon film sans bonne musique, quoi, quelque part. C'est une faute de goût de ne pas s'entourer. Et des fois même, on découvre des nouveaux compositeurs, c'est vrai. C'est ça le charme du cinéma aussi.
Alors, les petits secrets de tournage, Alain ?
Alors, le scénario, en fait, c'est la synthèse de deux romans.
Ok.
C'est The Tower de Richard Martin Stern et The Glass Inferno de Thomas N. Scotia et Frank Robinson. Donc c'était ce que je disais tout à l'heure un petit peu, l'époque des nouvelles constructions à qui serait le plus grand. Comme maintenant on pourrait dire ce qui se passe au Qatar ou au Koweït ou à Dubaï. C'était un petit peu la course et c'était un petit peu la hantise justement de voir ces gratte-ciels face à un tremblement de terre ou à un incendie, comme on peut voir dans le film. Donc c'est des peurs, on a travaillé sur des peurs qui sont encore des peurs présentes, de nos jours. Et petite anecdote aussi, ce qui était assez drôle, c'est que les deux acteurs principaux, Steve McQueen et Paul Newman, rêvaient de tourner ensemble. Parce que ça fait un peu comme chez nous, si on mettait à l'échelle Belmondo et Delon, donc c'était un petit peu, ils jouaient un petit peu dans le même cours, registre, beau gosse, viril et tout. Et ils ont cabotiné sur ce film parce que Steve McQueen voulait bien jouer, mais il voulait avoir son nom plus grand, enfin écrit en premier. Il voulait exactement. Alors l'autre a dit oui, mais moi je veux qu'on ait exactement le même nombre de phrases à dire, le même dialogue. En fait, c'était les frères ennemis. Ils s'entendaient bien, mais ils voulaient rien céder sur
une histoire d'ego et d'orgueil.
Voilà une histoire d'ego et justement. Steve McQueen avait été un petit peu piqué au vif parce que normalement Butch Cassidy et Billy the Kid où il joue avec Robert Redford, normalement le projet était prévu pour Steve McQueen, donc il s'est un petit peu vengé en voulant à son tour entre guillemets dire bon bah tu vois là maintenant on joue tous les deux dans le même film et c'est moi le plus important. Donc c'est surtout cette anecdote qui était assez savoureuse de voir que des stars comme ça se chamaille presque pour... en plus, quand on voit au final, il y en a un qui a le beau rôle, c'est aussi Steve McQueen, le valeureux pompier face à l'architecte qui fait des bêtises,
oui, c'est vrai.
entre guillemets, donc c'est assez marrant.
Yes. Pour ceux qui ont aimé, tu conseillerais quel film ?
Alors, si vous aimez les films catastrophes, on ne peut pas passer à côté de Titanic, bien
oui,
sûr.
Oui, forcément.
Le Poséidon, aussi sur un...
De 72, ouais.
Voilà, 72. Et même, il y a un remake qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Armageddon, bien sûr, où une météorite vient scratcher la Terre. Fusion, The Core, où par contre, là, ça se passe sur Terre, mais c'est l'intérieur de la Terre qui va exploser.
Okay.
Volcano, qu'on peut conseiller aussi. Le jour de la fin du monde, de 1980. Où là, on voit que les effets spéciaux, justement, datent bien de 1980. Et puis, c'est toujours à la mode. Tous les 4-5 ans, on a nos films catastrophes qui reviennent. Alors, des fois, ça vient de... Comme Armageddon, le danger vient de l'extérieur. Des fois, c'est les volcans, comme tu disais tout à l'heure, les volcanos, ça vient de l'intérieur. Mais je crois que... Pour finir, ça sera quand même une peur qui restera la peur de ce que peut pas contrôler l'homme, le temps, les éléments, et ça, c'est un sujet qui, je pense, sera utilisé de nombreuses années encore au cinéma.
Merci Alain. Bonne fin de journée à tous.
Bonne fin de journée.
Les grands classiques du cinéma sur la rage.